Bonjour à toutes et à tous, à vous également qui nous suivez sur Zoom. Bonjour à ceux peut-être qui sont là pour la première fois. Donc enchanté, ravi d'être parmi nous aujourd'hui. Et donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Et c'est une joie également de pouvoir nous conduire cet après-midi dans l'étude de la parole de Dieu. Et dimanche dernier, nous avons vu avec pasteur Philippe, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 22 à 33, comment devait se comporter le mari et la femme chrétienne au sein de leur mariage. J'espère que son message vous a encouragé, que cela vous a aidé à mieux discerner quel était votre rôle au sein du couple. Et aussi pour vous les célibataires, que cela vous a éclairé si un jour vous êtes amenés à vous marier. Et moi, personnellement, ça m'a encouragé à persévérer dans l'amour que je porte pour mon épouse, de continuer à prendre soin d'elle comme Christ le fait pour l'Église. Aussi, de ne pas oublier mon rôle de leader spirituel dans notre couple. Et après avoir vu la relation entre mari et femme, nous poursuivons aujourd'hui notre série sur la famille selon Dieu, et cela concernera la relation parent-enfant, comme vous voyez dans le titre. Et avant de commencer ma prédication, j'aimerais vous poser une question. D'après vous, quelles sont les causes qui font que la relation parent-enfant ne se passe pas bien? Je vous laisse un petit temps de réflexion. D'après vous, quelles sont les causes qui font que la relation parent-enfant ne se passe pas bien? Et pourquoi cette question? Parce que le texte d'aujourd'hui nous donnera justement des solutions pour avoir une relation parent-enfant harmonieuse. Et donc, si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir dans Éphésiens, au chapitre 6, les versets 1 à 4. Vous pouvez également suivre sur la slide, et je lis dans la version du Summer. Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Jusqu'ici, notre lecture. Et avant d'entrer en profondeur dans notre texte, je rappelle brièvement le contexte. Nous avons vu au cours de l'année que dans les trois premiers chapitres, qui sont plus d'ordre doctrinal, que l'apôtre présente magnifiquement le projet de Dieu dans lequel les chrétiens sont richement bénis. C'est par grâce qu'ils sont sauvés. En et par Jésus, tous les chrétiens de toute nationalité sont égaux et réconciliés devant Dieu. En comprenant l'amour de Christ à leur égard, les chrétiens ne peuvent pas rester indifférents. Cela a des conséquences sur leur vie. Cela implique des actes concrets. Cela doit tout simplement se voir dans la vie de tous les jours. Et justement, les exhortations pratiques de l'apôtre des chapitres 4 à 6 permettent aux chrétiens d'aborder la bonne attitude. Et donc, nous avons déjà vu dans les chapitres 4 à 5 comment nous devons nous comporter dans nos relations fraternelles dans l'Église, comment en tant que chrétiens nous pouvons témoigner dans la société et quelle attitude l'époux, l'épouse doit avoir au sein de son couple. Et ma prière, c'est que tout ce que nous avons appris jusqu'ici et ce que nous verrons aussi aujourd'hui puisse nous encourager à avoir toujours une vie qui plaise davantage à Dieu. Et dans notre texte, le but des propos de Paul, c'est que les parents et les enfants puissent vivre une relation harmonieuse. Il leur donne des solutions pour que cela soit réalisable. Et donc, je répète, le but, c'est que les parents et les enfants puissent vivre une relation harmonieuse. Et tout d'abord, il commence par s'adresser aux enfants. Et donc, je tiens à préciser avec le contexte que c'est des enfants chrétiens. Et le fait que l'apôtre commence par s'adresser aux enfants peut paraître étonnante, parce que normalement, il devrait plutôt commencer par exhorter les parents. Mais s'il fait cela, c'est parce qu'en fait, il suit un certain ordre. L'apôtre s'adresse d'abord à ceux qui doivent se soumettre, comme il l'a fait plus haut en commençant par les épouses, et il le fera également par la suite au verset 5, en s'adressant d'abord aux esclaves. Et donc, la première solution que recommande Paul aux enfants pour que la relation enfant-parent puisse être harmonieuse, c'est l'obéissance. Il faut savoir que le fait qu'il s'adresse directement à eux montre qu'il les considère comme des personnes importantes. Parce qu'à l'époque, on ne s'adressait pas directement aux enfants, on s'adressait surtout aux pères. Et oui, cette soumission des enfants passe par leur obéissance. Et pour celles et ceux qui ont grandi comme moi dans une famille chrétienne, c'est peut-être un verset que les parents vous ont rappelé à plusieurs reprises lorsque vous ne les écoutiez pas. Après, pour ma part, je n'ai pas le souvenir que mes parents se sont servis de ce verset pour me remettre en question ou me faire culpabiliser quand je ne leur obéissais pas. Par contre, ils ont bien mis en application ce qui est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 13 qui dit ceci. « Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonne heure. » Après, il faut le dire, je n'étais pas forcément un enfant très calme et je pouvais parfois cumuler les bêtises. Mais revenons à ce que dit Paul lorsqu'il exhorte les enfants. Il leur donne les raisons pour lesquelles ils doivent obéir aux parents. Il ne leur dit pas juste « obéissez à vos parents parce que c'est comme ça ». Mais vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur. Et dans d'autres versions, il est dit « dans le Seigneur » ou « selon le Seigneur ». Et Paul est en train de dire que ce qui doit pousser les enfants à obéir à leurs parents, c'est parce qu'ils le font par égard pour le Seigneur Jésus. Après, Paul ne détaille pas plus cette précision à cause du Seigneur, mais il veut probablement souligner que c'est Jésus qui doit motiver les enfants à obéir, que c'est Jésus qui permet d'être obéissant. Oui, ce qui peut réellement aider un enfant à obéir à ses parents, c'est qu'il se rappelle qu'en Christ, il est une nouvelle créature et que l'obéissance lui permettra de progresser dans sa marche avec le Seigneur. Et ensuite, Paul mentionne une autre raison qui doit motiver les enfants à obéir à leurs parents. Parce que c'est quelque chose de juste. Pour dire que c'est quelque chose de juste, il appuie son propos en citant l'Ancien Testament. Plus précisément, Paul cite le 5e commandement que Dieu avait donné à Moïse sur le mont Sinaï lorsque Dieu a conclu une alliance avec son peuple. Et l'apôtre affirme qu'il est juste pour les enfants d'obéir à leurs parents, car lorsqu'ils agissent ainsi, ils appliquent la loi de Dieu. Et la loi de Dieu est juste. Et en plus d'être juste, l'obéissance plaît à Dieu. C'est quelque chose qui fait plaisir au Seigneur. Paul, en Colossiens 3, dit « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. » Oui, sachant que l'obéissance à nos parents fait plaisir au Seigneur. Et le fait de savoir cela devrait être une source d'encouragement à l'obéissance. En tant qu'enfant chrétien, il n'est pas tenu d'obéir aux parents pour gagner leur faveur, leur attention, leur amour, mais parce que Dieu le demande. Cela est juste et cela lui plaît. Quand nous obéissons à nos parents, nous obéissons à Dieu indirectement. Et l'inverse est également vrai. Lorsque nous désobéissons à nos parents, nous désobéissons également à Dieu indirectement. Mais en réalité, est-ce qu'il est toujours si facile d'obéir à nos parents? Personnellement, je ne compte même plus toutes les fois où j'ai désobéi à mes parents. Quand ils me demandaient de ranger ma chambre, de faire le ménage, mes devoirs, de rentrer à une certaine heure quand je sortais avec mes amis, etc., etc. Mais j'aimerais que nous prenions conscience que obéir à nos parents a de l'importance aux yeux de Dieu. Et d'ailleurs, dans le livre des Proverbes, qui ont pour but d'acquérir la sagesse, nous retrouvons plusieurs exhortations concernant les enfants. Je vais juste me limiter à trois exemples. Dans le Proverbe au chapitre 1, il est dit « Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. » Proverbe au chapitre 6, « Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Et au Proverbe 23, il est dit « Écoute ton père qui t'a donné la vie et ne méprise pas ta mère devenue âgée. » Oui, frères et sœurs, un bon moyen de montrer aux parents que nous les honorons, que nous les respectons, se fait par notre obéissance. Mais cependant, notre obéissance s'arrête lorsque nous devenons adultes, lorsque nous ne sommes plus sous leur responsabilité. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus du tout leur obéir, mais cette obéissance, elle est limitée dans le temps. Et voici ce qu'a écrit un de mes professeurs à l'IBN, Sylvain Romerowski, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et voici ce qu'il écrit. À l'âge d'adulte, le respect dû aux parents prendra une autre forme. Comme le dit si bien Alphonse Maillot, il s'agit d'accorder du poids à ce que disent les parents. Il ne s'agit pas d'obéir servilement ou de suivre aveuglément tous les conseils des parents, mais d'en tenir compte, de leur accorder toute la valeur qu'ils méritent, au lieu de tout rejeter en bloc parce que cela vient des parents. Fin de la citation. Et par contre, ce que nous sommes tous tenus de faire en tant qu'enfants, c'est d'honorer nos parents toute notre vie, de les respecter. Et c'est la deuxième solution que donne Paul pour avoir une relation harmonieuse entre les enfants et les parents. Et il existe plusieurs manières d'honorer ses parents. Cela peut être par savoir tout simplement les remercier pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire, s'ils sont toujours en vie, de savoir prendre soin d'eux. Et sinon, comme je l'ai dit précédemment, l'apôtre cite le cinquième commandement. Sauf qu'ici, il le modifie légèrement. Et il est question dans l'Ancien Testament d'une longue vie dans le pays promis. Et Paul modifie la citation, car il ne s'adresse pas simplement à des Juifs dans sa lettre, mais essentiellement Paul, parce que Paul voit le pays dont il est question dans Exode comme l'ensemble de la terre que les chrétiens hériteront. Et ce que Paul promet aux enfants, c'est que s'ils honorent leurs parents, notamment en leur obéissant, ils seront heureux et jouiront d'une longue vie sur la terre. Mais en réalité, est-ce que cela se passe toujours comme ça? J'obéis à mes parents, je les honore, et donc je serai heureux et je vivrai longtemps. Et j'apprécie ce que Dominique Angers, un professeur de théologie, nous dit justement concernant cette promesse. Et voici ce qu'il dit. D'une manière générale, il existe une relation de cause à effet entre la fidélité à honorer ses parents et le bonheur exprimé sur terre, et même entre le fait d'honorer ses parents et la santé, voire la longévité. Il ne s'agit pas, certes, d'une règle absolue. Beaucoup d'exceptions le montrent, comme il en avait aussi à l'époque de l'Ancien Testament. De toute évidence, il y a des gens qui honorent leurs parents et qui pourtant meurent très jeunes dans un accident de voiture. Notamment, hormis les accidents et les maladies graves, la réalité de cette promesse est souvent constaté. Nous vivons tout simplement mieux et plus longtemps lorsque nous nous entendons bien avec nos parents et que nous les respectons. Fin de la citation. Actuellement, si notre relation avec nos parents n'est pas bonne, remettons-nous en question. Est-ce que c'est peut-être parce que nous manquons d'obéissance à leur égard? Après avoir exhorté les enfants à obéir à leurs parents, de les honorer, l'apôtre s'adresse maintenant au Père. Et si vous avez remarqué, Paul ne mentionne pas les mères. Non pas parce qu'elles ne sont pas importantes et n'ont pas de rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Pour cela, il suffit de parcourir l'ensemble de la Bible. Il y a plusieurs exemples dans le livre des Proverbes, justement. Et vous avez également au chapitre 31 la femme de valeur. Et nous voyons également dans 2 Timothée 1 que la foi de Timothée a été influencée par celle de sa mère et de sa grand-mère, qui, je pense, lui ont montré le chemin à suivre. Mais dans le contexte, Paul s'adresse surtout au père, le chef de famille, parce que celui-ci pouvait tout simplement abuser de son autorité. Et donc l'apôtre ici va rappeler leur devoir. Et voyons la solution que Paul donne au père pour que la relation enfant-parent soit harmonieuse. Et la première solution qu'il mentionne, c'est de ne pas exaspérer nos enfants. Je crois que si Paul évoque cela en premier, c'est que c'est fondamental. Au chapitre 5, verset 31, il avait exhorté les chrétiens à faire disparaître la colère, car il sait bien que la colère ne provoque pas en eux de bonnes choses. À cause de la colère, ils peuvent avoir de la rancune, de l'amertume, tenir des propos vulgaires, blessants, ils peuvent être agressifs, voire même violents. Essayez de vous rappeler la dernière fois où vous avez mis votre enfant en colère. C'était peut-être il y a 2 semaines, 2 jours, peut-être même ce matin avant de venir à l'église. Imaginez maintenant comment serait votre relation si vous aviez évité de le ou la mettre en colère. Je crois vraiment, en tant que parents, si nous arrivons à ne pas exaspérer nos enfants, nous aurons une meilleure relation avec eux. Après, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, pour moi en tout cas, car j'ai parfois tendance à m'énerver vite avec Mélodie parce qu'elle n'obéit pas tout de suite à ce que je lui dis de faire. Quand elle ne m'écoute pas, je peux m'emporter. Je peux tenir des propos inappropriés, faire du chantage. Si tu fais pas ça, tu seras privé de ceci, cela. Et je sais qu'en fait, ce n'est pas une bonne chose pour construire une relation. Oui, chers parents, il y a tellement de raisons qui peuvent nous pousser à mettre en colère nos enfants. Donner des conseils, des enseignements que même nous, on ne s'applique même pas. Le favoritisme. Depuis l'arrivée de Josias, j'essaie de faire attention à ça, car je sais très bien que ça énerve Mélodie quand je prends trop de temps, trop d'attention avec elle. Et peut-être que vous, au sein de votre famille, vous avez vécu la même chose. On vous compare avec votre frère, votre sœur. Fais comme ça parce que ton frère, il est comme ceci, cela, il est bon à l'école, fais pareil. Et peut-être que vous aussi, ça vous a mis en colère. Vous, les parents, on est trop exigeants avec nos enfants. Une discipline un peu trop dure. Oui, frères et sœurs qui sommes parents, et à vous aussi qui un jour le deviendrez peut-être par la grâce de Dieu, comme Paul le dit, n'exaspérons pas nos enfants, car comme je l'ai dit précédemment, cela peut provoquer de mauvaises émotions et réactions. On sait tous que sous le coup de la colère, des paroles blessantes peuvent sortir très rapidement, et malheureusement, parfois ça peut aller plus loin que de simples paroles. Au contraire, l'apôtre nous exhorte à élever nos enfants en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Et c'est la deuxième solution que donne Paul pour que la relation parent-enfant soit harmonieuse. Et d'après vous, par quoi commence l'éducation de nos enfants? Comment on aimerait que nos enfants se comportent? Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton anglais « The life you live is the lesson you teach ». Vous appréciez mon accent, hein, il est pas mal. Et en fait, ce dicton, il dit tout simplement « La vie que vous vivez est la leçon que vous enseignez ». Et je pense que ce dicton dit vrai. Nous qui voulons que nos enfants prient, lisent la Bible, qu'ils louent le Seigneur, et si eux-mêmes ne nous voient pas faire cela, prier, qu'ils ne nous trouvent pas en train de chanter des cantiques, lire la parole, est-ce qu'ils auront vraiment envie de le faire? Je crois que l'éducation de nos enfants commence effectivement par notre manière d'être, par notre façon de faire. Si nos enfants nous voient être des personnes qui ont de l'amour, de la joie, aimables, généreuses, hospitalières, il y a de fortes chances que cela les influence et qu'à leur tour, ils adoptent la même attitude. Et je me rappelle encore quand j'étais enfant, mes parents nous réunissaient, mon grand frère et mes deux petites sœurs, on prenait des cantiques, on louait le Seigneur, ensuite on prenait un passage dans la Bible, on le lisait et on finissait par la prière. Et aujourd'hui, j'essaie d'instaurer ce même genre de moment pour mon foyer à l'image de mes parents. L'éducation de nos enfants passe également par la discipline et la correction. Nous trouvons dans le livre des Proverbes plusieurs exhortations à ce sujet. Au Proverbe 13, verset 24, il dit ceci, « Qui refuse de châtier son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonne heure. » Proverbe au chapitre 19, « Corrige ton fils tant qu'il y a encore de l'espoir, mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. » Et Proverbe au chapitre 29, « Corrige ton enfant et tu auras lieu d'être sans inquiétude. Il fera les délices de ton cœur. » Et c'est vrai qu'en général, plus les enfants sont corrigés tôt, plus tôt ils seront respectueux. Je me souviens encore dans mon enfance, quand je me suis fait corriger par mes parents, parce que je ne leur obéissais pas et que je ne les écoutais pas, ce n'était pas forcément des moments de plaisir. Mais je sais que cela a contribué à ma croissance. Bon, de temps en temps, ça m'arrivait de prendre des coups de bâton, mais voilà, ça dépend quelle éducation aussi vous avez eue. Et je sais que voilà, tout dépend de la culture, mais je sais que cela m'a permis de grandir. Et après, ce qui me semble important, c'est de bien communiquer avec nos enfants, leur rappeler les raisons qui nous ont poussés à les corriger, que leurs mauvaises paroles, leurs mauvaises actions nous blessent, mais que tout d'abord, ça blesse le Seigneur. Oui, Paul demande aux parents de prendre du temps avec les enfants pour discuter, dialoguer avec eux, leur expliquer, leur indiquer la voie à suivre. Est-ce que nous prenons du temps pour dialoguer avec nos enfants, pour les enseigner, les conseiller? En tant que parents, nous avons une lourde responsabilité d'éduquer, de conseiller nos enfants selon la volonté du Seigneur. Et pour pouvoir faire cela, ça nécessite que nous-mêmes, en tant que parents, nous sachions ce que Dieu désire. Prenons du temps à méditer la parole de Dieu, car c'est par ce moyen que Dieu nous révèle sa volonté, qu'il nous révèle justement ce qu'il aime, ce qu'il désire. Et pour conclure, j'aimerais nous rappeler que pour que la relation enfant-parent soit harmonieuse, il faut que les deux parties, c'est-à-dire les enfants et les parents, travaillent ensemble. Que chacun fasse ce que Dieu attend de lui. Enfants, honorez vos parents, notamment par votre obéissance. Vous, parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais éduquez et conseillez-les selon la volonté de Dieu. Je sais très bien que ce n'est pas quelque chose de facile, que ce soit tant pour les enfants ou les parents, que ça peut être dur, que ça peut demander des efforts, que ça peut être dur, très dur même. Mais pensons à Christ et prions-le, car c'est lui qui nous aidera à accomplir notre rôle et ce que nous ne sommes pas capables de faire seuls. Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci parce que c'est par elle que tu te révèles. Et c'est par elle que nous pouvons justement connaître ta volonté, Seigneur. Et Père, aide-nous à encore méditer ce passage. Je sais que c'est quelque chose qui nous est très difficile, que ce soit pour nous, les enfants ou les parents. Mais apprends-nous à regarder à Christ, Seigneur. Par amour pour Christ, par respect pour Christ, que nous puissions être des enfants obéissants. Que nous, les parents, nous puissions faire preuve de patience, nous puissions ne pas exaspérer nos enfants, Seigneur. Et que toute chose puisse simplement te rendre gloire. Et tout ceci, Père, nous te le prions dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.